VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par la politique en RDC. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, la FIDH, redoute une généralisation des violences dans le pays à 9 mois d'une présidentielle incertaine. Et ce, dans un communiqué publié 2 jours avant un vote du Conseil de sécurité de l'ONU sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC. La MONUSCO, présente dans le pays depuis 1999, a déployé sur place près de 19 000 soldats et policiers, essentiellement des forces qui sont dans l'est du pays et aussi à Kinshasa, la capitale. En Côte d'Ivoire, l'ancienne première dame Simone Gbagbo dans le collimateur de la justice ivoirienne ce lundi. Le procès de Madame Gbagbo poursuivi pour crime contre l'humanité a repris aujourd'hui à Abidjan et le verdict du jury est attendu avant la fin de la journée. Plus de détails sur ce jugement qui se déroule en l'absence de l'accusé et de ses avocats avec notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara.
Les avocats de l'ancienne première dame ivoirienne ont claqué la porte lors de l'audience du 15 mars dernier et annoncé la suspension de leur participation à ce procès. Ils demandent la reprise totale des débats en raison, disent-ils, de l'absence de nombreuses pièces manquantes au dossier d'accusation et le remplacement des magistrats par un autre, et cela en plein procès. Ce matin, la parole est donnée à la partie civile pour ses plaidoiries. Le procureur prononcera ensuite son réquisitoire avant que le jury ne rende son verdict. L'ancienne première dame des Côte d'Ivoire est poursuivi pour son implication présumée dans des tirs d'obus sur le marché d'Abobo, une commune d'Abidjan, et sa participation à une cellule qui planifiait et organisait des attaques menées par des milices et des militaires lors de la crise post-électorale de 2010 et 2011. Simone Gbagbo, qui purge déjà une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, encourt la prison à vie. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Au Mali, ouverture aujourd'hui à Bamako de la conférence d'entente nationale entre les différentes parties à la crise malienne. Une réunion précédée par 3 attaques qui ont fait 6 morts et autant de blessés ce week-end. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
La première attaque a été perpétrée contre un checkpoint de l'armée malienne le samedi 25 mars à Al-Moustras, une localité située à 150 km de Gao. Le bilan est de 3 soldats maliens tués et 4 blessés. Les assaillants non encore identifiés ont emporté un véhicule équipé d'une 14-50 mm, des armes AK-47 et des munitions. La deuxième attaque avait pour cible des cars de transport des sociétés Sonef et Nour qui ont été attaqués entre Gossi et Dori, toujours dans la région de Gao. C'était vers 7h du matin et les passagers ont été dépouillés de leurs biens. Le seul passager blessé est décédé à l'hôpital de Gao suite à ses blessures. Le même samedi, aux environs de 22h, le poste de douane de Wolesobougou, localité située à 80 km de Bamako, a été attaqué par des bandits armés. Le bilan fait état de 2 douaniers tués et 1 autre blessé. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Soudan du Sud, 6 travailleurs humanitaires tués dans une embuscade. C'est l'attaque la plus meurtrière contre les humanitaires en plus de 3 ans d'une guerre civile brutale qui a entraîné une famine. Claire Morin-Gibault.
Une source humanitaire a affirmé qu'il s'agissait de 3 Kenyans et de 3 Sud-Soudanais travaillant pour une ONG locale. Ils se rendaient de Djouba à Pibor. Leur voiture a été arrêtée par des individus non identifiés qui les ont abattus. Selon David Scherer, représentant spécial de l'ONU, l'attaque a eu lieu dans une zone contrôlée par le gouvernement et il a exhorté les autorités à enquêter et à arrêter les tueurs. Djouba empêche les humanitaires d'accéder aux zones tenues par les rebelles. Cette embuscade survient après 2 autres attaques. Le 10 mars à Mayendit, dans le nord, des employés d'une ONG ont été enlevés puis relâchés 4 jours plus tard. Et un agent de la santé a été tué le 14 mars à Yirol, où sévit le choléra. Le 20 février, le gouvernement de Djouba a déclaré que la famine sévit dans le pays et affecte plus de 100 000 personnes. D'ailleurs, Khartoum a annoncé l'ouverture de corridors humanitaires de la ville d'El Obeid, dans le centre du Soudan, à Bentiu, dans l'état de l'unité, pour acheminer quelques 10 000 tonnes de sorgho.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Retour en Côte d'Ivoire. 151 migrants clandestins ivoiriens ont été récemment rapatriés volontairement de Libye, où ils s'étaient rendus dans l'espoir de gagner l'Europe. De plus en plus de jeunes ivoiriens, à l'instar de nombreux autres Africains, se lancent dans ce genre d'odyssée, dépensant souvent des millions de francs CFA, tout en étant conscients qu'il pourrait bien s'agir de leur dernier voyage. En d'autres termes, un destin incertain, mais un espoir pour toute une famille, nous dit d'Abidjan notre correspondante Narita Namasté.
L'objectif d'emprunter la voie de Libye, c'était pour avoir une vie meilleure.
Tous aspirent à cela, une vie meilleure. La Libye est devenue l'une des principales routes pour atteindre l'Europe à la Méditerranée. Diawara Yves Mokhtar, âgé de 20 ans, jeune footballeur, rêve d'évoluer dans une équipe en Angleterre.
L'objectif d'un Ivoirien qui joue au foot, la terminaison, c'est au moins dans les pays européens. L'argent qui est pris en Côte d'Ivoire jouant en Libye, ça vaut 1 300 000.
Il a combattu auprès de la rébellion armée ivoirienne, mais il n'a pas été enrôlé pour intégrer les forces armées de Côte d'Ivoire. Pour lui, il était plus que nécessaire de prendre la route de l'aventure.
Depuis la guerre de 2011, j'étais avec des jeunes frères qu'on a combattu ensemble depuis de Vavoie. Ils ont eu les matricules. Bon, moi, mon matricule n'est pas sorti. Dès que mon argent, je suis parti en Algérie. De l'Algérie, je suis parti maintenant de la Libye. Nous qui ont combattu, nous, on n'a rien eu. Alors, ceux même qui n'ont rien fait, c'est eux qui ont les matricules. Ils se promènent avec les galons. Ok, je vais rester là, toujours les regarder. Je préfère aller me chercher. C'est pour cela que je suis allé me chercher, wallah.
La misère des immigrants est souvent loin de se terminer. Comme Soumaoro Fatoumata, mère de 2 enfants, qui a passé 3 mois dans une prison à Tripoli avec son bébé de 6 mois, souvent privée de nourriture et d'eau, Fatoumata est bien heureuse de retrouver son pays natal. Mais sa joie n'est pas totale.
Ils ont cassé toute leur maison là-bas. Moi, j'ai fait 3 mois avec mon enfant. J'ai fait 3 mois là-bas. En prison. J'ai quitté dans prison là pour venir ici. C'est très très content, mais moi, il n'est pas content bien parce que je ne vois pas mon petit frère, je ne vois pas mon mari.
Revenu de la Libye, chacun avec son histoire, la joie se lit sur le visage de la sœur aînée du jeune footballeur Diawara.
Ça faisait 2 mois, quelques jours que je n'avais plus de ses nouvelles. Je ne savais plus comment il faut le retrouver. Vraiment, j'avais perdu espoir. Et quand il a appelé qu'il a l'aéroport d'Abidjan, j'ai rendu gloire à Dieu.
Le gouvernement ivoirien n'entend pas les
abandonné. La Côte d'Ivoire suit de près la vie de ses ressortissants où qu'ils se trouvent. Chaque fois que nous sommes saisis par des Ivoiriens qui sont dans une situation de détresse, le président de la République nous donne les moyens nécessaires pour faire rapatrier compatriotes.
En fin 2016, le gouvernement ivoirien annonçait que la Côte d'Ivoire occupait la 4e place dans le classement des pays pourvoyeurs des migrants clandestins. Narita Namasté, à Abidjan, VOA Afrique.
Au Maroc, des manifestants ont attaqué dimanche soir une résidence de la police dans la région d'Al-Hoceima, dans le nord du pays, faisant des dégâts matériels. C'est ce que rapporte ce lundi l'agence de presse officielle en citant les autorités locales. 4 voitures et un bus des forces publiques ainsi qu'une voiture privée ont été brûlées, avec également des dégâts matériels dans la résidence. Les forces de sécurité sont intervenues pour établir l'ordre et une enquête a été ouverte. Conflit en Syrie, des combats opposent ce lundi le groupe État islamique au FDS, les forces arabes et kurdes, qui ont pris la veille l'aéroport de Tabqa, une 50aine de kilomètres au sud-ouest du fief djihadiste de Raqqa, dans le nord de la Syrie. C'est ce que rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. L'aéroport de Tabqa se trouve à près de 3 kilomètres au sud de la ville du même nom, située sur la rive du fleuve Euphrate, et qui est visée également par les FDS, les combattants des forces démocratiques syriennes. Conflit en Irak, les forces irakiennes sont reparties ce lundi à l'offensive contre les djihadistes du groupe État islamique dans la vieille ville de Mossoul, la deuxième agglomération d'Irak. Environ 400 000 civils sont pris au piège dans la vieille ville, coincés entre les djihadistes et les forces irakiennes appuyées par la coalition internationale anti-djihadiste conduite par Washington. Objectif, reprendre le dernier grand bastion urbain de l'État islamique en Irak. Et pour terminer, politique en Russie, le leader d'opposition Alexei Navalny, condamné ce lundi à 15 jours de détention au lendemain de vastes manifestations anticorruption dans tout le pays, notamment à Moscou. Des protestations au cours desquelles la police a procédé à plus de milliers d'arrestations. M. Navalny a écopé d'une amende de 20 000 roubles, environ 325 euros, pour avoir organisé une manifestation non autorisée et aucun jour de détention pour refus d'obtempérer lors de son arrestation, selon la décision du tribunal Tsarskoye de Moscou. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.